Voilà, donc après ce petit épisode dans la salle d'à côté au bar, on va reprendre le débat donc sur la sécurité informatique. Bon, on va tout de suite prendre une autre question. Hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions en fait sur tout ce qui est PC personnel. Et puis après, en discutant comme ça, j'ai entendu que d'autres personnes aimeraient aussi peut-être parler davantage du réseau Internet, de son fonctionnement, de tout ce qui est attaque, mais alors cette fois, non plus sur votre PC à vous, mais sur ce qui peut se passer, disons, à beaucoup plus grande échelle, en fait, hein, les attaques force brute sur certains sites qui vont disparaître, ce genre de choses. Ça peut être une ouverture du débat. Et puis, bon, bah, on a une question au début sur est-ce qu'on va faire un débat scientifique ou un débat sociologique. Donc, bien sûr, on se place sur le plan scientifique. Je pense aussi qu'il y a des questions sociologiques qui sont tout à fait liées à tout ça. Donc finalement, je pense qu'on a eu pas mal de réponses scientifiques ce soir, notamment sur le cryptosystème, etc. Je pense que c'est une bonne chose, puisqu'on a une technologie qui est avant tout à notre service et qui est avant tout basée sur des connaissances scientifiques, après bien sûr des implications dans la société. Donc on peut également poser toutes sortes de questions sur les implications que peuvent avoir la mise en commun d'un si grand nombre de données, l'accès à toutes ces données, la gestion de ces données, les politiques commerciales, etc. Bon, c'est simplement des pistes. Maintenant, c'est à vous de poser les questions. Monsieur.
Alors, chaque soir, avant d'éteindre l'ordinateur, je fais un nettoyage avec ces cleaners. Est-ce que c'est vraiment utile ?
Alors, tout le monde est sous Linux, c'est ça ?
Non, je connais un petit peu. Donc, c'est un outil, effectivement, qui est plutôt bien coté, qui est un bon outil qui permet donc de faire du ménage sur les fichiers temporaires de son système. Après, bon, qui est paramétrable aussi, qui permet de supprimer, de vider les caches des navigateurs, donc potentiellement après d'optimiser, peut-être d'augmenter le temps de réponse ou la rapidité de votre machine. Je dirais que tous les soirs, c'est peut-être pas forcément absolument nécessaire. CCleaner permet aussi donc de supprimer des petits éléments qui sont importants aussi en termes de sécurité, qu'on appelle les cookies. Donc, ils sont stockés par votre navigateur, qui permettent par exemple de garder des traces des sites que vous avez consultés et d'être exploités après par les sites que vous consultez pour vous proposer par exemple de la publicité ciblée ou si vous êtes allé sur tel site. Voilà. Bon. C'est des éléments qui, d'un point de vue effectivement sécurité, vie privée, sont potentiellement des risques aussi. Donc c'est une bonne chose d'utiliser ces cleaners pour supprimer ces cookies. Il le fait très bien. Et, voilà. Il sert aussi par exemple à faire du ménage dans la base de registres, donc un peu la base du système. C'est aussi important parce que c'est potentiellement des choses qui vont ralentir aussi votre machine. Donc voilà, c'est une très bonne. Je pense que c'est une très bonne habitude, mais bon, tous les soirs, c'est peut-être pas indispensable.
Très, très rapide, hein.
Oui, c'est rapide. Surtout si on le fait régulièrement. Ça, plus on le fait régulièrement, plus le temps de scan est rapide.
Je voulais savoir pourquoi les forces, comment ça s'appelle déjà, les services secrets, voilà, ne peuvent pas suivre les utilisateurs de Dark Internet comme les Anonymous, par exemple.
Alors, il y a plusieurs réponses, hein, mais ce qui se passe, c'est que quand on est hacker, on essaie de naviguer de façon anonyme. Hein. Donc, on va essayer d'utiliser des réseaux, en fait, le réseau qui s'appelle Tor, par exemple, TOR, qui permet de faire du rebond d'un ordinateur à l'autre sans garder, donc de faire des traces pour aller d'un point A à un point B par des ordinateurs, mais de ne pas avoir une route qui est précalculée. Et donc, si la route est précalculée, c'est très facile de savoir d'où on vient pour faire l'attaque. Alors que là, ils vont faire des rebonds sur des ordinateurs et à chaque fois qu'ils rebondissent, ils essaient de brouiller les cartes et donc d'éviter qu'on trace la route entière. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais Hugues, tu veux rajouter ?
L'analogie que j'utilise pour expliquer ça, c'est celle de la voiture de location. En fait, quand on utilise Internet, on loue une voiture auprès de notre fournisseur d'accès. Free, Orange, Bouygues, Télécom, etc. etc. Et quand on va sur un site web, quand on va dans un magasin, le magasin filme la plaque d'immatriculation de la voiture qu'on utilise. C'est-à-dire que Internet n'est pas anonyme. Dès qu'on va quelque part, il suffit d'afficher une page web et le propriétaire de du site web qu'on en visite a ce qui s'affiche automatiquement, ça fait partie de la structure d'Internet, la plaque d'immatriculation de notre voiture, la fameuse adresse IP. Le truc, c'est d'utiliser des voitures volées. Le propriétaire du site a la plaque d'immatriculation de la voiture. Il n'a pas notre nom et notre adresse. La seule personne qui peut faire la passerelle entre la plaque d'immatriculation et notre nom, c'est notre fournisseur d'accès. C'est-à-dire que quand la justice, par exemple, imaginez quelqu'un qui va poster, bah tiens, c'est d'actualité en ce moment, quelqu'un qui va poster un message qui fait l'apologie d'un crime raciste sur Facebook, Facebook possède l'adresse IP de la personne. Mais par contre, Facebook ne sait pas que c'est Monsieur Jean Dupont. La justice qui a été saisie est obligée. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'adresse IP, elle appartient à Wanadoo, par exemple. Ça, on le sait, c'est une notoriété publique. Donc la justice, par contre, va s'adresser à Wanadoo et va demander à Wanadoo qui utilisait telle adresse IP, tel jour, à telle heure. Et Wanadoo dira, c'est Monsieur Jean Dupont qui habite à tel endroit. Donc voilà comment la justice fait pour nous retrouver. Comment marche le réseau Tor ? Le réseau Tor, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement sur le site web de Facebook, par exemple, je vais aller me connecter à un autre ordinateur qui fait partie du réseau Tor, où là, je vais descendre de ma voiture et je vais prendre sa voiture à lui. Je vais aller me connecter à un troisième ordinateur qui fait partie du réseau Tor, où je vais descendre de la deuxième voiture et je vais prendre une troisième voiture, etc. etc. Et au bout après avoir changé 6 ou 7 fois de voiture, je vais arriver chez Facebook. Facebook ne verra donc que la plaque d'immatriculation de la 8e voiture que j'ai utilisée. C'est-à-dire que si des gens font une enquête, au cas où, ils pourront remonter jusqu'au 7e ordinateur, mais pas plus loin. Si effectivement ce 7e ordinateur était surveillé par la police, parce qu'effectivement le réseau Tor est surveillé, parce qu'il est utilisé par des méchants pirates, blablabla, ils pourront remonter jusqu'au 6e ordinateur, mais pas plus loin. Etc. etc. Voilà le principe du réseau Tor, qui est un Tor pour The Onion Router, le routeur en oignon, c'est-à-dire qu'il y a un anonymat par couche. Plus on descend profond dans les couches, plus on est anonyme. Alors, les questions après qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que c'est légal ? Ben oui. Rien n'interdit d'aller visiter un copain pour aller autre part. Je veux dire, ne confondez pas l'usage que l'on a de quelque chose et le moyen, c'est pas parce qu'on utilise Tor pour ça. Pour en revenir à la question originelle, comment il y a le mot anonymous qui a été prononcé. Je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur ce mot-là, parce que c'est un des mots les plus fantasmés de l'Internet actuel. Anonymous pour la presse, pour les médias, c'est une association secrète, quasi mafieuse, de gros méchants qui n'arrêtent pas d'être des pédophiles nazis et de tout casser l'Internet. C'est pas ça du tout. Anonymous, c'est comme ça qu'on désigne le grand public qui agit sous couvert d'anonymat. Pour prendre une analogie, si vous manifestez, vous êtes un manifestant. Si vous manifestez avec une cagoule, vous êtes un anonyme. C'est exactement ça, les Anonymous. C'est vous, moi, qui allons sur des sites web de façon masquée, c'est en utilisant par exemple le fameux réseau Tor. Imaginez qu'un site web soit attaqué par un encombrement, ce qu'on appelle en informatique une attaque par déni de service. C'est pas bien méchant, ça consiste juste à saturer le site web par le fait qu'il y ait trop de monde qui vienne le visiter en même temps. La plupart du temps, on fait ça en utilisant les fameux ordinateurs infectés par des virus, où on va forcer ces ordinateurs à se connecter au site web. Mais si pendant qu'un site web est attaqué comme ça, moi, je veux me connecter à ce site web, je vais participer de l'encombrement de ce site web, en essayant de voir s'il marche. Je vais être considéré comme un anonymous qui a fait partie de l'attaque. L'usage, le détournement d'Anonymous, c'est bien pratique. Anonymous, ça fait un nom. Ils ont un logo, le fameux masque de Guy Fawkes. Donc c'est bien pratique, ça permet de mettre un visage, de faire peur, etc. Mais c'est un groupe informel. Il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas d'AG, il n'y a même pas de pays d'origine ou de leader à la tête. C'est tout et n'importe qui utilise Internet de façon légèrement détournée. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traquer les Anonymous ? Parce que ce n'est pas un groupe constitué. Parce que c'est tout le monde.
pour continuer un petit peu dans les analogies, je prends un exemple simple. Imaginons qu'il y a des manifestants qui décident de bloquer une autoroute. Et ce jour-là, tu prends l'autoroute en même temps. Est-ce que la police va te mettre en prison parce que tu as pris l'autoroute? Est-ce que tu fais partie des manifestants, toi? Ou est-ce que tu es juste là un usager? Et bien là, c'est pareil. Avec Anonymous, ils font rien, ils se cachent même pas. Enfin, ils se disent juste, voilà, à un instant T, on va tous se connecter sur ce site web et ça va le surcharger et ça va faire qu'on va le rendre inaccessible. Mais la police, elle a pas de preuve que... elle peut pas différencier quelqu'un...
C'est fondamentalement pas répréhensible.
Ouais. C'est pas répréhensible. Elle a pas de possibilité de savoir si c'est une volonté nuisible ou si c'est quelqu'un classique qui voulait juste aller sur ce site web à ce moment-là. Enfin. Donc, ça, c'est un premier aspect. Après, il y a un autre aspect au niveau sécurité, au niveau de manière générale hacker. Certaines attaques se font en dehors de nos frontières. Autant en France, c'est assez simple. On a dit, la police, elle a le droit d'aller... Enfin, elle a le droit. Elle va voir France Télécom, et France Télécom a l'obligation légale de lui transmettre les fichiers si la police en fait la demande d'authentification. Autant, je ne suis pas sûr que si on va demander à Moscou de nous demander les fichiers pour savoir qui était derrière l'ordinateur qui avait telle adresse IP, je ne suis pas sûr que la demande aboutisse. Enfin, je prends Moscou, je peux prendre d'autres choses. Mais voilà. Enfin.
Ouais. Donc, moi, ma question, en fait, j'avais lu sur le projet olympique du gouvernement américain qui était de développer des sortes de super virus pour attaquer, par exemple, les... En Iran, dans les centres, enfin les, là où ils essayaient de construire des centrales nucléaires, et du coup, c'était pour savoir comment ils arrivaient ces virus à attaquer des ordinateurs qui n'étaient pas reliés à Internet et tout ça, par exemple.
Principalement, ouais, enfin, c'est comme le disait monsieur. Malheureusement, il y a encore des bonnes pratiques qui ne sont pas connues. Si on arrive à diffuser un certain nombre de clés USB dans un pays, on a à peu près, la probabilité est forte qu'il y en ait une qui se retrouve au bon endroit, là où on voulait la faire atterrir. Fin. Donc même un ordinateur qui n'est pas forcément relié à Internet, qui est coupé du réseau, on a les moyens, alors c'est peut-être une clé USB, après, y a aussi des services secrets, enfin. Prendre un espion, payer quelqu'un pour... Enfin, ça existe aussi. Pour qu'il aille juste mettre la clé USB au bon moment dans l'ordinateur, c'est faisable aussi. Fin. Mais par exemple, c'est une des bonnes pratiques que moi je dis à mes étudiants. Si vous trouvez une clé USB qui traîne en salle informatique, par exemple, si vous la branchez à un PC, débrouillez-vous qu'il y ait un super antivirus qui soit vraiment à jour. Et la première chose que vous faites, c'est faites un scan de la clé USB. Fin.
C'est exactement ce qui s'est passé en 2009 à Natanz. Natanz, c'est l'usine d'enrichissement d'uranium de l'Iran qui a été attaquée par un virus écrit exprès pour bousiller l'usine d'enrichissement d'uranium, écrit par le seul pays qui a les moyens matériels de le faire, les États-Unis. Et c'est ce qu'ont fait le Mossad, c'est-à-dire les espions israéliens, pour réussir à rentrer le virus dans la centrale. Ils ont perdu, entre guillemets, des clés USB sur le parking de la centrale. Ça a marché. Un mec les en a retrouvé une par terre, l'a branché sur son PC pour voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'était gagné. Et pourtant, la centrale n'est pas reliée à Internet. Les périphériques USB sont aujourd'hui le premier vecteur d'infection des ordinateurs. Alors, périphérique USB, on pense tout de suite à des clés USB, mais malheureusement, nos téléphones aussi sont assez en haut de gamme. C'est-à-dire qu'il existe des virus qui sont capables de se loger sur nos téléphones et qui attendent avec impatience qu'on branche le téléphone à l'ordinateur pour le recharger ou pour récupérer des photos et qui vont s'installer sur l'ordinateur à ce moment-là. La clé USB qui fait le tour de la salle informatique où tous les élèves posent leur interro dessus... Généralement, elle fait mal, celle-là, quand elle arrive.
Dans la suite de ce que vous dites, est-ce que quand vous disiez que les 25% des ordinateurs étaient infectés, que en fait un des objectifs des virus c'était de faire marcher les ordinateurs pour avoir une puissance de calcul énorme, c'est utiliser ces organismes mafieux, enfin à ce niveau-là, ça sert ils en servent. Faire tourner tous ces ordinateurs, ça sert à faire ça, des attaques dans des usines à grande dimension, ça sert à quoi? Pourquoi on fait calculer tous ces ordinateurs et avoir cette puissance de calcul?
Le pognon.
Ouais,
C'est-à-dire que les gens qui contrôlent des réseaux de PC virus, qu'on appelle des botnets, en fait, vendent du temps de calcul, exactement comme une entreprise tout à fait respectable, comme Amazon, par exemple, vendra du temps de ses supercalculateurs. Ils vendent du temps de calcul, de la puissance machine, pour faire des choses. Alors, principalement, c'est des choses aussi rigolotes qu'envoyer des spams pour vendre du Viagra ou des fausses Rolex, mais parfois, ça peut être des usages beaucoup plus surprenants. Par exemple, effectivement, faire du calcul par force brute, du calcul massivement parallèle pour essayer de casser des clés de cryptage, faire des attaques par déni de service, donc ce qu'on expliquait, les encombrements, parce que quand toutes les demandes de visite de votre site web viennent de la même adresse, il est facile de la contrer, mais quand elles viennent de milliers d'adresses différentes, vous ne pouvez pas faire la différence entre les visiteurs légitimes et les PC virus, les PC zombies qui vous attaquent. Ils servent aussi parfois à des usages beaucoup plus pernicieux, c'est ce que je racontais tout à l'heure, à monsieur qui me disait, ouais, mais au fond, si ça tourne juste en arrière-plan et que ça bouffe un peu de ressources sur mon ordinateur, je m'en fiche d'avoir un virus. Un copain à moi qui est expert judiciaire, qui est informaticien, qui est expert judiciaire, a été mandaté par la justice pour auditer un PC qui avait été saisi chez quelqu'un qui était soupçonné de pédophilie. Il a donc fait son boulot d'expert et audité le PC. Et sur le PC, effectivement, il a trouvé des photos pédophiles. Des gamines de 6 ans en train de se faire violer. Truc cool, quoi. Il aurait pu s'arrêter là, il avait répondu à la question qu'on lui posait. Sauf que coup de bol, il est aussi passionné de virus et il a remarqué que les fichiers étaient classés avec des noms AA, BB, CC, dans des répertoires qui eux-mêmes s'appelaient AB, AC, AC, etc. Donc un classement surprenant pour un humain. Et en poursuivant ses recherches, il s'est aperçu en fait que l'ordinateur était infecté par un virus. Et que les photos pédophiles n'avaient pas été déposées par l'utilisateur du PC, mais par le virus lui-même. Et que les propriétaires du botnet vendaient à des pervers du temps d'accès à des photos pédophiles en toute sécurité, puisque les photos pédophiles n'étaient pas sur les ordinateurs des pervers eux-mêmes, mais sur les ordinateurs de pauvres pigeons infectés par des virus. Imaginez maintenant que mon copain n'ait pas été consciencieux qu'il se soit arrêté à sa première estimation.
Oui, juste pour rajouter aussi des chiffres, hein. Il faut savoir que les spams, par exemple, c'est, au niveau mondial, il y a 70% des mails qui sont des spams ou des vers. Enfin, moi, j'ai lu ça, c'est plus que ça. Mais déjà, je trouve ça énorme. Ça veut dire que y a 20 ans, on avait dans nos boîtes aux lettres plein de papiers, de publicités que les gens amenaient comme ça. Mais maintenant, ils utilisent des bootnets pour envoyer des spams. Et voilà, c'est la même logique commerciale, mais sauf que c'est à une échelle mondiale.
Comment fonctionne le réseau mondial Internet? Pour faire plus clair, qui tient les rênes de l'Internet et qui décide, alors on pense aux Américains, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, qui décide qu'un jour Internet ne fonctionnera plus parce qu'il n'en a plus envie? Ou qui peut daigner au mail mondial de s'arrêter pendant une heure ou pas? Ou en France?
Alors, historiquement, Internet a été conçu justement pour empêcher ça. Sa conception, à l'origine, était une demande du ministère de la Défense américaine pendant la guerre froide et qui ne voulait pas un réseau où il y avait un point centralisé. Si ce point centralisé était attaqué, par exemple par une attaque nucléaire, il ne fallait pas que le réseau tombe. Donc il n'y a pas de point stratégique, fondamentalement parlant, d'Internet. C'est-à-dire que, grosso modo, notre Internet français, entre guillemets,
il continuera à fonctionner même s'il n'y a plus d'Internet ailleurs. D'accord ? On n'aura juste plus accès aux sites qui sont ailleurs. Mais nous, en interne, on continuera toujours de fonctionner. Les protocoles sont prévus pour, tout est fait pour ça. À côté de ça, il y a une gouvernance d'Internet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une gouvernance ? C'est-à-dire, grosso modo, des organismes de normalisation. La plupart du temps, enfin, ces organismes de normalisation, enfin, ils sont aux États-Unis. Mais c'est une gouvernance qui est, entre guillemets, on pourrait dire, issue du monde libre. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure à l'un d'entre vous. Enfin, presque pour publier une norme Internet, n'importe qui peut publier une norme Internet. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle sera suivie. Mais n'importe qui peut faire acte, dire, voilà, moi, j'ai trouvé un protocole, d'accord ? Je vais écrire une documentation sur ce protocole-là et je vais me débrouiller pour que peut-être il soit au moins relu par des experts, mais j'ai cette possibilité-là. Il n'y a pas fondamentalement, il n'y a pas de gouvernement d'Internet. Il y a ce qu'on peut dire, c'est au niveau des noms de domaine, même si ça a tendance un petit peu à évoluer. Vous savez, les noms de domaine, c'est ce qu'on appelle www.yahoo.fr, www.google.com, c'est le nom des domaines qui sont attribués. Là, il y a une petite gouvernance, une petite prévalence, on va dire, américaine. Mais sinon, en tant que tel, Internet, c'est un réseau de réseaux. On peut éliminer la moitié des réseaux pour que les autres continuent de fonctionner. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il avait dit. Et j'ai même une anecdote qui va dans ce sens-là. C'est ce qui s'est passé en Libye en 2011, alors que pendant les printemps arabes, Kadhafi voyait que ça commençait à gronder chez lui. Kadhafi a décidé de couper Internet en Libye. C'était relativement facile. Il y avait un seul fournisseur d'accès. Il y a toujours un seul fournisseur d'accès en Libye, qui était un fournisseur d'État, l'équivalent de France Télécom Orange chez nous. C'est-à-dire qu'il a dit au fournisseur d'accès, vous éteignez vos ordinateurs. Donc tous les Libyens ne pouvaient plus avoir accès à Internet. Mais pour autant, les fils étaient toujours là. Les fils téléphoniques, les fibres optiques qui utilisent Internet étaient toujours physiquement là. Et bien ce qu'ont fait des internautes, et notamment des internautes français, c'est qu'ils ont mis en place des lignes téléphoniques qui utilisaient des anciens modems analogiques, ceux qu'on a connus dans les années 90, faisaient tout blip, 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 blip pour se connecter et qui marchaient mal. Et avec ça, ils ont établi des passerelles. C'est-à-dire que les copains libyens appelaient ces numéros en France par le réseau téléphonique commuté habituel. Et ensuite, les passerelles les rebasculaient sur Internet. C'est-à-dire que ces gens-là ont réussi à rétablir l'accès à Internet malgré la volonté d'un gouvernement dictatorial. On ne peut pas couper Internet. Internet, c'est exactement la créature de Mary Shelley, le monstre de Frankenstein qui a échappé à son créateur. Aujourd'hui, les militaires de tout pays rêveraient de pouvoir couper Internet ou du moins de le contrôler. Ils ne peuvent plus, ça leur a échappé. Ça nous fait bien marrer.
Voilà, pour juste apporter aussi un petit éclairage supplémentaire, je crois qu'il faut bien différencier l'infrastructure du réseau, hein, qui, comme ça a été dit, c'est quoi ? C'est des liaisons, c'est des fibres, principalement de la fibre optique, c'est vrai, hein, maintenant, la technologie pour transmettre des données sur des très longues distances. C'est le domaine de la fibre optique. Donc ça, c'est des liaisons qui sont gérées et qui sont opérées par des gros opérateurs nationaux. Bon, après, il y a des accords. Il y a beaucoup, je pense, d'accords et de dialogues entre les différents opérateurs des différents pays. Ça, c'est vraiment l'infrastructure de l'Internet. Et après, effectivement, nous, quand on parle d'Internet, on pense tout de suite Google, Facebook, les fournisseurs de services, en fait, ça c'est la partie vraiment visible, quoi. Mais effectivement, la partie du réseau, le cœur du réseau, ce qu'on appelle le backbone parfois aussi, donc qui sont les couches les plus basses du réseau, mais qui sont les couches les plus qui servent en fait à communiquer. Je pense que le réseau est tellement maillé, est tellement redondant. Il y a des liaisons. Bon, moi, je connais bien le réseau national de l'enseignement et de la recherche qui s'appelle Renater, qui est un réseau très haut débit, donc avec des liaisons de 10 gigas, mais qui sont très maillées, qui sont redondées. Voilà, c'est un réseau qui est très difficile à arrêter. Même si on coupe une ville, on détruit une ville, on va va passer par un autre endroit. Voilà, je pense que le cœur du réseau, lui, est très, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement robuste. Et ça, comme Florent l'a dit, ça a été, le protocole de communication a été imaginé comme ça, quoi, pour résister à des attaques, à des pannes importantes. Et après, il y a effectivement tout l'aspect service, qui est la partie visible qu'on connaît en tant qu'utilisateur. Donc, demain, Google peut s'arrêter et on continuera à communiquer sur l'Internet par d'autres moyens, parce que le réseau sera toujours là.
Juste pour vous dire, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous venez de dire tout à la fin. Il y a plusieurs exemples. Il y a quelques années, il y avait un bateau qui avait arraché une fibre optique au sud du Japon, si je me souviens bien, vers Taïwan. Et ça avait sacrément perturbé toutes les communications dans le sud-est asiatique. Hein, parce qu'on avait cassé le fil. Autre exemple, la Corée du Nord. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de connexions Internet avec la Corée du Nord. Il n'y a qu'une entrée qui passe par la Chine, si je ne me trompe pas.
Il n'y a aussi pas beaucoup d'utilisateurs.
Dans le grand public. Dans le grand public en Corée mais du Nord. Mais il y a quand même des instituts de fabrique de virus et autres. Autre exemple aussi, en Chine, si vous allez vous essayez de taper Google, vous n'avez rien du tout. Vous vous retrouvez sur Bing ou je ne sais plus quoi. Donc la Chine arrive quand même à contrôler une partie de la toile. Enfin voilà, c'était juste une toute petite remarque.
Enfin, quand j'avais répondu, c'était la première question. C'est-à-dire que l'Internet chinois, il ne peut pas fonctionner. L'Internet français continuera toujours de fonctionner. Après, c'est sûr que c'est un maillage de réseaux. Il y a des interactions entre ces réseaux. Il y a des pays comme la France où l'interaction, elle se fait principalement au niveau des fournisseurs d'accès. Au niveau de la recherche, il y a des réseaux nationaux, on va dire publics. Ces réseaux, on peut les contrôler, ça c'est sûr. Plus on en a, plus c'est compliqué d'être contrôlé. Après, comme je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, quand il n'y a qu'un réseau, c'est quand même beaucoup plus facile à arrêter. On sait très bien, pour faire simple, il y a des Internet, c'est des réseaux qui communiquent entre eux. Si je fais une petite analogie, on va dire que vous avez un réseau routier en France. On a des routes, on peut continuer à circuler sur nos routes en France. On peut toujours fermer la frontière, et on ne peut pas sortir du pays. Plus on aura de routes, plus ça sera compliqué de fermer toutes les frontières. On est un pays montagneux. Je pense que les frontières dans les pays montagneux sont un peu plus poreuses que des fois d'autres frontières. Donc, il est sûr qu'il y a des pays dans le monde où, comme la Chine par exemple, où ils arrivent à contrôler parce qu'il y a un État très très fort. Je crois qu'encore ils sont en train d'évoluer là-dessus. Je crois qu'il n'y avait que 3 points d'échange Internet, donc il n'y avait que 3 endroits en Chine qui communiquaient avec le reste du monde. Contrôler 3 endroits, c'est très simple. Là, pour des raisons commerciales avant tout, ces 3 endroits ne sont plus suffisants. Donc, ils vont commencer, je crois qu'ils sont passés ces derniers temps, il va y avoir une vingtaine de points d'échange avec Internet. Ça sera déjà un peu plus compliqué. Et au fur et à mesure que ça va se démocratiser, ça va devenir plus compliqué. Un moyen aussi de détourner, pour un pays comme la Chine, c'est encore un peu compliqué, mais on peut faire de l'Internet par satellite. L'Internet par satellite, là, grosso modo, à partir du moment donné où il y a quelqu'un qui a une petite parabole chez lui, il peut se connecter au satellite et là, le point d'échange au niveau du gouvernement, c'est très compliqué. La Chine, je pense qu'ils ont les moyens au niveau international de savoir quel satellite les arrose ou pas et qu'ils ont les moyens de le contrôler. Mais des petits pays comme la Corée du Nord, je pense pas.
Et c'est vrai que le Japon a été très handicapé par le fait qu'une des fibres optiques qui relie l'île au reste du monde a été coupée, dans le sens où le trafic a été ralenti. Mais il ne s'est pas arrêté, puisqu'il y a d'autres fibres optiques qui relient l'île. Alors c'est vrai que les sites comme Facebook, YouTube et tout ça étaient un peu plus longs et que les vidéos, on était obligé de les regarder en une qualité un peu moindre, mais l'Internet ne s'est pas arrêté. C'est ça qui est important. Oui, les paquets vont devoir emprunter un chemin un peu plus long et un peu moins rapide, mais Internet ne peut pas être arrêté.
Pour revenir sur Internet, j'ai vu des publicités effectivement qui faisaient, pour pas Internet, les satellites, j'ai vu des publicités qui vantaient Internet par satellite. Je ne sais pas comment, moi j'en suis encore à la prise électrique avec mon petit téléphone là, qui marche bien, et mon Wi-Fi éventuellement. Si je m'abonne à ce genre de choses, je peux aller avec mon ordinateur dans le monde entier, au milieu du Sahara, je reçois Internet ?
Si vous emmenez votre grosse parabole et le fil électrique qui va jusqu'à la maison avec lui, avec vous, oui. Non, c'est pas de la mobilité, ne confondez pas. C'est uniquement la liaison entre votre ordinateur et le réseau Internet, ce qui était appelé le backbone, c'est-à-dire les gros tuyaux rapides. Le boîtier, dans le cas d'un abonnement par satellite, il y a l'équivalent de la box qu'on a tous chez nous, qui convertit le signal satellitaire et qui, elle, de toute façon, sera reliée par le réseau téléphonique. Donc non, c'est pas un Internet mobile, ça n'a rien à voir. C'est très utile pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle les zones blanches. C'est-à-dire les petits hameaux isolés qui ne sont pas reliés, qui sont trop loin du NRA, c'est-à-dire le point de conversion, le point d'accès à ce réseau central, et pour qui la DSL, par exemple, ne marche pas. Si vous habitez dans un hameau et que vous êtes à plus de 20 km du relais qui convertit votre signal vers le cœur de réseau d'Internet, la DSL marchera très mal. Dans ce cas-là, une solution comme le satellite est envisageable. Ce n'est pas une solution pour pouvoir se déplacer partout. Ce n'est pas de la mobilité.
En fait, vous venez de répondre à la question que je voulais vous poser. À quoi ça sert ? Donc, en fait, ça sert juste quand on n'a pas accès normalement à Internet. Quoi.
Je ne suis pas utilisateur de l'Internet par satellite. Ce que je sais et ce qu'il faut savoir, je pense que au niveau du rendu, enfin du ressenti utilisateur, je pense que l'Internet par le SAT, on a une latence qui est importante. Donc on a du débit, donc pas trop de problèmes pour voir des vidéos ou des choses comme ça. Par contre, pour tout ce qui va être interactif, jouer en ligne par exemple, je crois que c'est assez difficile parce que les temps de traitement sont étant plus longs. Donc on n'a pas d'interactivité qui est très bonne, par contre on a du débit. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit, je pense, des connexions Internet par satellite.
Après, juste pour répondre aussi, est-ce que c'est sécurisé ou non de passer par satellite ? En fait, on peut écouter le flux sortant d'un satellite et puis essayer comme ça de voir ce qui est dit sur Internet. Donc voilà, c'est l'écoute d'un satellite est beaucoup plus facile que l'écoute de ligne physique, sauf à des endroits particuliers. Pour revenir à ce que disait Jean-Louis, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où toutes les lignes passent. Par exemple, vers le canal de Suez, il y a un nœud où il y a pas mal de lignes qui passent. Et c'est un endroit où on peut facilement écouter les lignes physiques. Mais donc, ça intéresse certaines personnes de se positionner là.
Oui, j'aurais une question également. Donc là, on parle d'écouter en direct, en fait, c'est-à-dire au moment où le flux passe. Je pense que la réponse est oui. Il y a aussi possibilité de consulter des fichiers log et de voir tout ce qui est traces qu'on laisse sur Internet. Donc, en fait, c'est une question en deux parties. Donc, quelles sont les traces qu'on laisse, à quel niveau, c'est-à-dire au niveau du service informatique de l'université, de notre fournisseur d'accès, d'ordinateurs sur lesquels on n'a pas forcément prévu de laisser des traces, mais sur lesquels on en laisse quand même, etc. Et puis, dans un deuxième temps, au niveau de la loi, en fait, comment ça se fait que petit à petit, les lois autorisent de plus en plus, voire incitent les fournisseurs d'accès, voire obligent les fournisseurs d'accès à conserver les logs, les cybercafés à conserver aussi les logs, etc., pour pouvoir les consulter plus tard, en fait. Donc, voilà, de façon générale, quelles sont les traces qu'on laisse, en fait, et que dit la loi par rapport à ça ?
Je pense que d'un point de vue légal, un fournisseur d'accès en France est engagé à conserver un an de log. C'est en tout cas ce qu'on me demande de faire dans le cadre de mon travail à l'Université de Savoie.
Et dans un an de log, qu'est-ce qu'il y a dans un log déjà ?
Un an de log qu'on s'engage à mettre à la disposition de l'autorité judiciaire en cas d'enquête. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas dans le cadre... on va dire des universités, c'est ce qui est en cours. Voilà, bon, le traitement des logs, c'est quelque chose de effectivement, c'est un sujet délicat. Donc on a en France un organisme qui s'appelle la CNIL, hein, qui est la Commission nationale d'informatique et liberté. Donc tout ce qui va faire appel au traitement des logs, donc aux des traces qui sont laissées par les utilisateurs, tout ça va être sujet à déclaration, d'accord, déclaration à cet organisme, la CNIL. Donc il y a plusieurs niveaux de traces. Hein, donc nous, en ce qui nous concerne, bon, on prend comme un site, comme une université, on a obligation de conserver donc des traces. Des usages qui sont faits pour être capable, en cas de litige, en cas de dépôt de plainte, choses comme ça, de mettre à disposition, comme je l'ai dit à l'autorité, ces traces. Alors les traces, après, effectivement, il faut les préciser, les déclarer, déclarer ce qu'on conserve, d'accord, en termes de traces. Voilà. Et on est aussi censé avertir, informer les utilisateurs du type de traces qui est conservé. Et les utilisateurs ont un droit de regard aussi sur leurs traces.
C'est-à-dire, par exemple, le contenu des mails, je suppose que ça, non, quand même.
Non.
Voilà. Donc, c'est simplement les sites sur lesquels... Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme traces?
Typiquement, les traces qu'on garde au niveau d'un serveur de mail, on va garder forcément... Bon, les traces ne servent pas qu'à ça. Les traces servent aussi... à évaluer le fonctionnement, en cas de problème, à être capable de revenir sur un problème. Bon, généralement, les traces qu'on conserve pour liées au fonctionnement d'un service vont être de moindre durée. C'est-à-dire qu'on, nous, en ce qui nous concerne, on va conserver 3 mois les traces à titre d'exploitation. C'est-à-dire ça permet de vérifier qu'un fonctionnement, qu'il y a eu un problème de fonctionnement ou de choses comme ça. Et au bout de 3 mois, les traces sont archivées, elles ne sont plus consultables. Elles sont stockées uniquement pour l'autorité judiciaire. Voilà. Le type de trace, donc pour un serveur de mail, ça va être typiquement toujours le tag horaire, donc l'heure de la trace, et puis donc, les adresses mail des expéditeurs, des destinataires. En aucun cas un contenu de mail, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans une trace, mais uniquement donc, le destinataire, expéditeur, taille du mail, résultat de l'opération, est-ce que le mail a été transmis, est-ce qu'il a été rejeté, etc. Voilà, ce genre d'infos. On est aussi, en ce qui nous concerne, on est aussi amené à faire des traces sur les usages. Donc, on a parlé d'adresse IP, des plaques d'immatriculation, donc les IP sources, les IP destinations, donc de notre trafic sortant. Donc, on trace aussi ce genre d'informations. Je pense que les opérateurs, tout opérateur... est censé aussi conserver ce type de traces dans ces fichiers de log.
Je confirme. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle les données trafic. C'est comme la téléphonie. Vous avez sûrement entendu parler des FADET de téléphonie. Quand un juge va demander quel numéro a été appelé de par qui, par quoi, quels sont qui a été, à partir du numéro, quelle est la liste de tous les appels qui a été passé, un fournisseur téléphonique a l'obligation légale de lui dire, voilà, ce numéro, il a appelé à telle heure, tel moment, la durée de la conversation a duré tant de temps. Ça, c'est obligatoire. C'est la loi. Et c'est pareil pour Internet. À partir du moment où on a tous les sites, et vous en voyez beaucoup, dès qu'on fait une requête sur Internet, il y a plein de requêtes sous-jacentes qui partent un petit peu dans tous les sens. Ça fait, je pense, des volumes de données dans le cadre de l'université qui sont quand même assez importants. Tout ça, soit doit être enregistré, soit doit être conservé pendant 1 an, à partir du moment donné où ça a été fait. Donc en plus, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut avoir un système de rotation, c'est-à-dire que le 1er janvier, on va effacer les logs du 1er janvier de l'année précédente, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une obligation légale. Par contre, le contenu, on ne doit pas le regarder. Enfin, la police ne doit pas le demander, sauf, bien sûr, s'il y a déjà une réquisition du juge. Les écoutes téléphoniques, c'est ça. Enfin, c'est avoir accès au contenu. Et dans ce cadre-là, si on a une réquisition du juge, on a l'obligation de fournir le contenu de ce qui a été échangé.
Je confirme tout ce qui a été dit, c'est très vrai. Le problème, c'est que ça ne se passe pas que dans les couches techniques de bas niveau. Ça se passe aussi dans les couches applicatives de haut niveau. Dit autrement, quand par exemple sur mon ordinateur, je vais voir la page d'un site web, tout ce qu'ils ont dit est vrai et s'applique. C'est-à-dire que mon fournisseur d'accès le sait, tous les propriétaires de tous les tuyaux que j'ai empruntés et de tous les ordinateurs qui ont servi de relais entre ces différents tuyaux sont au courant que mon adresse IP est passée, etc. etc. Mais l'adresse IP, encore, c'est relativement anonyme, parce que, comme on l'a dit, seul le juge peut obliger le fournisseur d'accès à faire la passerelle entre l'adresse IP et mon nom et mon adresse. Mais ce qui se passe, c'est ça, la deuxième partie, est malheureusement absolument pas anonyme et absolument pas prise en compte par la justice. Quand j'affiche la page web dans, par exemple, d'un journal, prenons, j'en sais rien, Le Monde, je vais sur le site lemonde.fr et je regarde, je lis un article sur Le Monde. Le problème, c'est que sur cette page du Monde, donc le propriétaire du serveur que j'ai interrogé, Le Monde, a mon adresse IP, il sait que telle adresse IP a demandé telle page, et donc il devine ce que j'ai vu puisqu'il connaît le contenu de la page. Mais le problème, c'est que sur cette page-là, il y a des pubs partout, et il y a aussi partout, dans tous les champs, qui nous incitent à donner notre avis, à cliquer sur le bouton j'aime, à dire plus un, etc., etc. Il y a plein de petits logos. Il y a le petit logo Facebook, le petit logo Google+, le petit logo Twitter, le petit logo Pinterest. Il y en a 50 comme ça à l'issuite. Et bien, le problème, c'est que ces petites images-là, ce n'est pas que des images. Il y a derrière ce qu'on appelle un fichier JavaScript, qui est en fait un petit programme qui va s'exécuter quand je vais l'afficher, et qui va aller signaler aux propriétaires de tous ces sites-là, à Google, à Facebook, à Twitter, à Pinterest, etc., etc., que moi, je suis en train de voir cette page-là. Et eux, ils vont le faire de façon beaucoup moins anonyme et beaucoup moins respectueuse de la vie privée. Parce que ce n'est pas seulement une adresse IP qu'ils vont lui filer, c'est aussi un numéro d'identifiant unique de mon navigateur. Et il suffit que je sois passé une fois chez eux, par exemple sur Facebook, pour me loguer, et Facebook sait que derrière ce numéro, il y a mon nom et mon prénom. Google sait que derrière ce numéro, comme j'utilise une adresse mail chez Gmail, il y a mon nom et mon prénom. C'est-à-dire que par une méconnaissance d'Internet, par une malveillance, par une bêtise, je ne sais pas comment il faut le dire, de la part des constructeurs de sites web qui vont mettre toutes ces petites choses-là, on va participer d'une espèce de surveillance globale et d'une étendue que l'on ne soupçonne pas. Et là, j'ai parlé que des petits boutons, ce qu'on appelle le web social. Je ne parle pas des publicités. Les publicités font pareil. Les publicités communiquent dans les deux sens. C'est-à-dire que les publicités sont, comme vous le savez, ciblées. Si vous avez fait une recherche pour un hôtel en Espagne, vous allez avoir toutes les pubs qui vont suivre dans les deux heures d'après qui vont parler de l'Espagne et des hôtels. Ça, c'est parce que les pubs, effectivement, sont ciblées. Les propriétaires de régie de pub savent m'identifier de façon unique et non ambiguë. Et comme ils savent ce que j'ai fait auparavant, parce qu'ils m'ont identifié quand j'ai fait ma recherche sur un hôtel en Espagne, ils vont pouvoir me bombarder de la pub. Et là, on est dans un domaine qui échappe à la loi, parce que la loi ne concerne que les couches techniques de bas niveau. On est dans le domaine de la surveillance globalisée. Alors, ce n'est pas une surveillance effectuée par des agences de renseignement. C'est une surveillance effectuée par le web publicitaire, on va dire. Par les grands du web dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle GAFA. GAFA pour Google, Apple, Facebook, Amazon, non pas que ces cinq-là soient les méchants, hein, mais c'est pour désigner toutes ces grandes sociétés qui constituent les sites web en fait, sur lesquels on tourne en boucle tout le temps. Et qui finissent aujourd'hui par tout savoir de nous, par un système d'espionnage auquel on participe inconsciemment et involontairement la plupart du temps.
Alors moi j'aimerais rajouter encore des choses, c'est que dans la page web qu'on regarde, non seulement ils sont capables de dire « Ok, on regarde une page donnée », mais ils peuvent savoir quelle partie de la page on est en train de regarder. Parce qu'on doit afficher, ça coûte plus cher d'afficher une pub en haut de la page qu'en bas de la page. Et puis les publicités qui sont à droite sont pas mal cotées aussi parce que les gens les regardent bien, ils ont l'habitude de parcourir... Ensuite, ces histoires de publicité contextualisée, il y a un business derrière, et donc il y a quelque chose qui s'appelle du ad exchange, c'est-à-dire qu'il y a carrément une bourse aux publicités. Donc il y a des sites web d'un côté, il y a des publicités de l'autre, et il faut mettre en accord une IP, donc quelqu'un qui navigue sur Internet, qui arrive sur une page, il faut qu'en 25 millisecondes, on affiche la publicité qui va bien. Et donc, ça coûte. C'est des algorithmes qui font ça. C'est pas des êtres humains qui disent, oh, bah, je vais peut-être lui présenter ça. Non, c'est vraiment des algorithmes qui font ce travail-là. Et donc, il faut préalablement bien vous connaître pour avoir une publicité la plus, enfin, celle que vous attendez. Parce que ça gonfle plutôt les gens d'avoir des tonnes de publicité. Et puis, c'est vraiment un business de marketing parce que si vous êtes allé voir, vous avez fait des achats, vous avez fait un abandon de panier parce que vous aviez autre chose à faire ou ça n'a pas fonctionné, ben le produit que vous aviez essayé d'acheter, on va vous le proposer le lendemain ou quelques jours après. Éventuellement, on va vous envoyer un mail pour dire ben, c'est dommage, peut-être vous avez besoin de ce produit, etc. Et donc, voilà, on veut bien vous connaître pour que ça soit efficace, pour que les algorithmes soient efficaces.
Oui.
Juste pour ajouter juste un dernier point, sans faire de chauvinisme, enfin, c'est quand même important de le dire, parce qu'on connaît Facebook, mais là, je n'ai plus le nom de la société, mais la société qui a développé l'algorithme le plus efficace actuellement, malheureusement, sur les publicités ciblées et sur le suivi, c'est une société française, et qui actuellement est très très bien cotée.
Ça répond à la question. Tu viens presque de donner l'explication. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas que le politique n'a pas voulu protéger davantage la publicité et le secret. Ça fait marcher une entreprise française.
C'est une entreprise. D'abord, c'est très récent. Après, on peut pas protéger les gens de leur utilisation, enfin, d'un certain côté. Au final, ce sont des sites sur lesquels on va, ce sont des sites que l'on consulte, ce sont des sites où on est au courant, enfin, on les voit les pubs, d'accord. Si on n'a pas envie d'aller, si on n'a pas envie d'aller les voir, on va pas les voir. Enfin, on force pas les gens à aller sur ces sites-là. Après, ils respectent la loi française, qui est une des, à mon avis, une des lois les plus protectrices dans ce domaine-là. On est le seul pays à avoir dans le monde une commission, justement, qui donne le droit à toute personne d'accéder à ces fichiers, aux différents fichiers que l'on a. C'est-à-dire que, grosso modo, à partir du moment donné, une société a fait des fichiers sur vous. Vous avez le droit légalement d'aller lui demander qu'est-ce qu'elle sait sur vous. C'est quelque chose qui est dans la loi. Enfin, et on a une commission qui veille en principe, je dis bien en principe, au bon respect de cette loi. Après, ce sont que des données. Enfin voilà, c'est des données. Vous êtes, on fournit, lorsque vous allez sur le monde vous fournit une information. Comme on dit, c'est une information, il y a des journalistes qui l'ont rédigée, il y a des gens qui gèrent un site internet, elle est plus ou moins gratuite. En échange, il va refournir l'information que vous êtes allé à ce moment-là sur son site web à une autre société.
Alors en fait, là, on touche du doigt aussi les problèmes de limite entre données publiques et données privées. De plus en plus de gens postent sur Instagram ce qu'ils font tous les jours. Alors, il y a un chanteur français bien connu qui en avait marre d'avoir des paparazzis, donc poste sur Instagram parce que aussi ça lui évite d'avoir des paparazzis devant chez lui. Les journaux à scandale récupèrent ces photos-là et les publient. Ça coûte moins cher aussi pour eux. Mais sauf que ce chanteur français bien connu paye ses impôts à Stadt. Et donc, la police suisse a regardé si réellement il était resté 6 mois et 1 an en Suisse. Et sauf qu'en regardant sur 1 an les photos postées, on s'est aperçu qu'il était resté 15 jours. Et son épouse a posté, par exemple, un commentaire en disant « On rentre à la maison ». Et c'était à Los Angeles. Donc, on voit bien la limite entre données publiques et données privées. Cette personne-là donne énormément sur sa vie privée et il s'est pris à son propre piège. Voilà.
Tout à fait. Bon, je crois. Il est 10h30 et on va être obligé d'arrêter là pour les questions. Je suis désolé, je crois qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été soulevés ce soir. Bon, au niveau sur la technologie, je crois qu'on a eu déjà pas mal de réponses. Sur les problèmes de société, on a à peine effleuré le problème, on a vu déjà qu'il y avait beaucoup de questions et j'espère que le but est rempli, que vous repartiez selon la formule consacrée avec plus de questions que de réponses, mais qu'il y ait eu une certaine prise de conscience peut-être pour certains ou toucher du doigt effectivement que aujourd'hui il y a quelque chose qui est encore en pleine révolution dans Internet. Si les intervenants veulent donner un mot de la fin et puis on va conclure.
Alors moi je voulais juste dire que voilà, on a vu plein de domaines différents, mais en fait il y a plein d'autres endroits où l'insécurité informatique ou la sécurité informatique est en jeu. Alors je voulais juste dire, par exemple, on a parlé des satellites et des hackers. Donc on peut aussi s'amuser à aller hacker des satellites et faire tomber, par exemple, le réseau de télécommunications mondial. On pourrait s'amuser à ça par des attaques qui sont très simples, c'est des attaques par déni de service. Mais en ce moment, dans une société où on a de plus en plus d'objets connectés, donc vous avez votre téléphone, mais votre voiture aussi est intelligente. Votre pacemaker est intelligent. Votre maison est intelligente. Alors c'est très bien, mais sauf qu'on peut hacker tous ces éléments. Donc, par exemple, si vous mettez des volets ouvrants automatiques sur votre maison, eh ben, un hacker peut dire « je vais ouvrir la maison ». Donc, vous voyez qu'on vous présente des objets connectés qui sont très bien. Certains sont très, très bien. Mais il faut veiller à la sécurité. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Eh bien, merci. Alors, un dernier mot, simplement. Enfin, je vous laisse, pardon. Je ne voulais pas couper un élan. Un dernier mot, simplement, sur l'activité de l'association. Donc, vous êtes également invité le 26 février pour un ciné-science, cette fois, donc au cinéma Lastrée. Qui portera sur c'est un film qui s'appelle La fièvre des particules et donc qui met en scène la vie des chercheurs qui travaillent dans la physique des particules. Et comme d'habitude, il y aura des intervenants experts du domaine qui pourront répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre présence ce soir.